Et donc du coup, bah, là, pour le coup, j'ai eu hyper peur. Je me suis dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va m'arriver, machin, je peux pas laisser ça comme ça.
L'émotion de la découverte. Le son et les émotions de la recherche. Émotion. Épisode 2.
Hélène Cecilia est doctorante dans l'unité BioNPAR, INRAE, École vétérinaire de Nantes. Après 3 ans de recherche, elle finit sa thèse dans le domaine de l'épidémiologie et de la modélisation mathématique.
Je dirais que la peur, c'est une émotion qui n'est pas forcément agréable à ressentir de base. C'est une émotion qui peut nous paralyser ou aussi nous foutre un coup de pied aux fesses selon comment on la ressent, je dirais. Qui moi, m'accompagne en tant que doctorante. Il vient toquer à ma porte, on va dire, de temps en temps.
Alors la peur, on va en parler, mais avant, est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi vous travaillez? Quel est votre sujet de thèse?
Alors du coup, comme vous l'avez dit, moi je fais de l'épidémiologie. L'unité dans laquelle je travaille s'occupe de la santé animale. Donc mon sujet s'intéresse à la santé des animaux d'élevage en particulier. Et je travaille en fait sur une maladie qui s'appelle la fièvre de la vallée du Rift. Donc c'est une maladie qui se transmet des moustiques aux animaux, qui provoque des vagues d'avortement et de la mortalité chez les jeunes individus. Elle se transmet aussi des moustiques aux hommes et elle se transmet aussi des animaux aux hommes. Et donc moi j'étudie cette maladie, enfin la transmission de cette maladie au Sénégal en particulier. Mais je fais tout ça majoritairement depuis mon ordinateur vu que je modélise en fait les épidémies de cette maladie avec des programmes informatiques.
Alors les moustiques, moi personnellement, ça me fait peur, mais est-ce que c'est ce sujet de thèse qui vous inspire de temps en temps la peur ou totalement autre chose?
Non, c'est pas pour le sujet en fait que j'ai choisi cette émotion. C'est plutôt en fait, je pense, lié au statut de doctorant et un peu plus, enfin, au statut de chercheur aussi, mais je pense que c'est quand même propre au doctorant. Bon, c'est quand même un statut assez précaire. Et donc du coup, pour moi, j'avais envie d'aborder la peur sur deux aspects. D'abord, la peur de ne pas être à sa place, je dirais. On pourrait résumer par le syndrome de l'imposteur. Donc, c'est en fait se demander globalement pendant 3 ans, est-ce qu'on est légitime? Est-ce qu'on fait bien son boulot? Est-ce qu'on a des résultats qui sont intéressants? Est-ce qu'on va avoir des résultats? Parce que, bon, au début, c'est quand même pas assuré. Je dirais que tout ça, cette quête de légitimité, elle est constante dans la thèse. On est étudiant, donc on est quand même là pour apprendre. Donc, on ne peut pas normalement tout faire bien du premier coup. Donc ça, il faut que les encadrants l'aient en tête. Et à côté de ça, on n'a pas envie d'être amené toujours à ce statut d'étudiant, dans le sens où on fait quand même de la recherche. Du coup, on a envie d'être traité comme quelqu'un de légitime, comme un collègue. Et le deuxième aspect dont je voulais parler, donc lié au statut précaire et au statut de la recherche en général en France, je dirais, c'est la peur... la peur de l'avenir, en fait. Qu'est-ce qui va m'arriver après ma thèse? Est-ce que je vais trouver un poste? Est-ce que je vais enchaîner les CDD de courte durée en espérant un jour qu'un concours s'ouvre pour un poste de chercheur permanent dans la fonction publique? On a beau être passionné par ce qu'on fait, le fait de ne pas savoir jusqu'où on va pouvoir faire ça, donc...
J'aimerais revenir sur le premier aspect que vous avez abordé tout à l'heure, la quête de légitimité. Vous, pendant vos 3 ans de recherche, est-ce que vous avez eu cette peur de vous dire vraiment, je ne suis pas légitime, qu'est-ce que je fais là?
Oui, et c'est pas forcément une peur qui est rationnelle, dans le sens où moi j'ai quand même eu des supers encadrants qui m'encourageaient, donc j'avais pas forcément de bonnes raisons, entre guillemets, de flipper là-dessus. Mais je pense que c'est inhérent à la recherche, dans le sens où, pour faire de la bonne recherche, il faut savoir se remettre en question, parce qu'il faut savoir dire, mes résultats, ils sont comme ça, mais il y a quand même telle et telle limite qui font que... Voilà, c'est un exercice qu'on nous demande constamment, en fait, quand on écrit des articles, ou même de manière générale, si on va parler dans une conférence. Et donc, fatalement, le cerveau, à force de faire cette remise en question permanente, il peut se dire, t'es sûr que t'as fait le bon truc, regarde un tel dans son papier, il a pas fait pareil que toi, tu vois. Donc du coup, je pense que c'est assez inhérent à la recherche, bien que, bon, il y a des gens qui ont l'air de ne pas du tout souffrir de ce syndrome de l'imposteur. Donc, il y a les deux extrêmes, je dirais, des gens qui ont un ego un peu surdimensionné et d'autres qui ne se sentent pas légitimes, même s'ils sont de vrais experts dans leur domaine. Donc, c'est assez marrant comme contraste. Après, c'est un équilibre à trouver. Je pense qu'il faut, il faut garder un peu de ce syndrome de l'imposteur pour jamais être trop certain de ce qu'on fait et toujours pouvoir se remettre en question. Mais voilà, il faut réussir à en faire une force qui soit motrice et qui, voilà, qui nous pousse à avoir des nouvelles idées et tout ça, et pas quelque chose de paralysant. Du coup.
Que vous avez en tête un moment précis, une espèce d'anecdote où vous avez vraiment eu peur, soit d'un résultat faux, soit d'une présentation, soit de quelque chose typique de votre recherche, où là, vous avez vraiment flippé.
Ouais, ça me revient. Du coup, en fait, donc, quand on soumet un article à une revue, le principe, c'est que c'est après relu par des, ce qu'on appelle les pairs, donc d'autres scientifiques qui lisent l'article et qui font une révision et qui nous envoient finalement une sorte de rapport avec ce qu'ils ont pensé de notre article, les corrections qu'ils aimeraient bien qu'on fasse et tout ça. Bref, et donc du coup, j'avais reçu ces révisions qui étaient plutôt positives hein, dans l'ensemble, qui disaient que l'article était bien, qu'ils avaient des suggestions, mais qu'ils n'avaient pas l'air d'avoir de gros doutes sur le fait que ça pourrait être publié, quoi. Et donc, j'étais en train de faire les corrections. Et puis là, il y a un commentaire assez anodin, finalement. Je fais des petites analyses supplémentaires et tout ça. Et là, horreur, je me rends compte qu'il y a un gros souci, en fait, dans mon analyse, qu'il y a des données qui sont dupliquées. Et donc, du coup, bah, là, pour le coup, j'ai eu hyper peur. Je me suis dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va m'arriver, je peux pas laisser ça comme ça. Et en fait, le reviewer, en l'occurrence, s'était pas rendu compte hein, que c'était un duplicata, mais c'était son commentaire qui m'avait amené à le découvrir. Et donc, du coup, bon, j'étais en full panique. Mais du coup, je suis allée voir ma directrice de thèse, et puis elle m'a dit, non, mais t'inquiète, c'est pas grave, ça arrive. Tu refais ton analyse, tu demandes un peu de temps supplémentaire comparé au délai qui t'était accordé pour avoir le temps de le faire. Et puis après, tu l'expliques dans ton rapport, en mode transparence, et puis ça va bien se passer, quoi. Et au final, ton article, il en sortira grandi, tu vois. C'est mieux que si tu ne l'avais pas vu. Donc au final, ça s'est bien passé.
Eh bien, merci beaucoup, Hélène, Cécilia. J'espère que votre fin de thèse va bien se passer, que votre soutenance va bien se passer. C'est bientôt, je crois.
Oui, je vois ce que j'appelle le bout du tunnel. Là, j'envoie mon manuscrit dans une semaine et je soutiens dans un mois et demi.
Bon, en tout cas, on espère que ça va bien se passer. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir partagé avec nous la peur, l'émotion dans la recherche.
Merci beaucoup.
Vous avez écouté Émotion, un podcast du Labo des Savoirs produit à l'occasion de la Fête de la Science 2021. L'ensemble des épisodes est à écouter sur émotion.lepodcast.fr et sur labodessavoirs.fr. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.